Dans la plupart des industries, la connaissance des conditions locales, jusqu'alors essentielle, est devenue accessoire, sachant que la sphère de concurrence des entreprises, le plus souvent, se situait désormais au plan national plutôt que local. Quelques entreprises locales existaient encore, mais sous réserve d'accepter d'énormes changements en matière de compétitivité, dans la mesure où des compagnies nationales émergentes se retrouvaient en position dominante dans des domaines aussi divers que les produits chimiques ou le pétrole, l'acier, l'équipement agricole ou les appareils ménagers. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau international est à peu près de même nature. Avec la montée de sociétés fonctionnant sur le plan local et régional, la portée géographique de beaucoup d'industries ne s'arrête plus aux frontières nationales. Il est évident qu'une définition nationale est inadaptée. Par exemple, il est difficile d'interpréter le secteur du pétrole et des industries pétrochimiques autrement que dans un contexte international. Les grandes sociétés pétrolières produisent leurs matières premières dans des pays très éloignés de leurs activités de transformation. Le pétrole brut produit au Moyen-Orient, en Alaska, en Indonésie et en mer du Nord passe par des marchés, des raffineries et des usines de produits chimiques aux États-Unis, au Japon, en Europe ou ailleurs. Les capacités de raffinerie sont optimisées sur une base non pas nationale, mais internationale. Le prix du pétrole est fixé au niveau mondial et les grandes compagnies pétrolières calculent leur compétitivité en termes de vente ou de part de marché mondial. Leur avantage stratégique réside dans leur capacité à coordonner les ressources et les activités au plan international. De même, l'aéronautique est aujourd'hui de nature clairement internationale. Compte tenu des coûts de recherche et développement, les concurrents se comptent sur les doigts d'une main. Les principaux fabricants de moteurs à réaction rivalisent directement, indépendamment de leur implantation, sur un territoire national. Le succès et la survie d'une entreprise dépendent de ses performances internationales, mesurées en termes de ventes, de bénéfices et de parts de marché au niveau international. Les industriels de ce secteur n'ont aucune chance de survie sans une orientation et une perception du climat commercial à l'échelle du monde. On observe déjà une forte tendance à la mondialisation de divers produits et services, dont les composants électroniques, l'équipement de bureau, la publicité, la banque, les produits pharmaceutiques, les ordinateurs, l'automobile, les services médicaux et les assurances. La globalisation de l'industrie repose sur trois grandes forces, la première étant le développement économique. La croissance économique est plus forte que jamais dans les pays industrialisés à travers le monde, comme dans beaucoup de pays émergents. Les capitaux et les ressources humaines ont contribué à la montée de nouveaux concurrents au plan mondial. La croissance économique a aussi créé une convergence des pays industriels en termes de demande et de méthode de production. Les machines et les produits accueillis à bras ouverts dans une partie du monde correspondent en général à ceux que l'on réclame partout ailleurs. La deuxième force est la réduction des barrières institutionnelles qui freinaient la mobilité internationale. Après la Seconde Guerre mondiale, presque toutes ces barrières qui ralentissaient l'activité transfrontalière ont disparu. Au niveau régional, divers groupes de pression ont obtenu la réduction des taxes douanières et autres obstacles liés aux frontières. Au niveau global, tarifs douaniers et quotas ont été réduits. De nouvelles règles de procédure régissent le commerce international. Les problèmes liés à la convertibilité des monnaies ont également été résolus. Les multinationales elles-mêmes, en offrant un cadre unique, particulièrement favorable aux échanges internationaux, ont largement contribué à niveler les difficultés et les différences entre les industries mondiales, mais la force la plus puissante est sans aucun doute l'impact de la technologie. La nature hautement technologique de divers produits et services exerce une forte pression sur de nombreuses entreprises forcées d'investir à l'échelle mondiale. Les économies rendues possibles au niveau des dépenses de recherche et de développement ont augmenté grâce à ce passage de la sphère nationale à la sphère internationale. En certaines occasions, les tarifs et les barrières institutionnelles ont augmenté, ce qui risque d'être à nouveau le cas dans un avenir proche. La croissance économique a parfois été négative. Les mutations technologiques ont amené des inventions capables de réduire l'échelle des réductions de coûts. Mais on peut les interpréter comme de simples déviations par rapport à la tendance à long terme qui favorise la rationalisation de l'industrie à l'échelle internationale. La portée géographique des industries ne fera que s'élargir, obligeant leurs dirigeants à revoir leur stratégie sur une base régionale, voire globale. Cette mobilité croissante de l'industrie au-delà des frontières nationales entraîne de nouvelles opportunités et de nouvelles menaces. Les chefs d'entreprise sont de plus en plus confrontés à des mutations de nature internationale. Ces changements de l'industrie sont la preuve que le nouveau cadre de l'analyse stratégique est généralement international plutôt que national. Cependant, ne parler qu'en termes de stratégie globale serait une simplification à outrance. Il est essentiel de conserver une approche attentive et différenciée des environnements nationaux, car le cadre international ne s'applique pas toujours. Certaines multinationales ont développé une stratégie de concurrence centrée sur un territoire national. Cette position est typique des entreprises internationales à visée nationale. D'autres sociétés cherchent au contraire à tirer avantage de leur réseau d'exploitation, de ressources et de capacités internationales.